Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Ici Ben OFX pour le deuxième épisode du jeu du mois de cette saison. Je suis comme d'habitude accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Bonjour Ben OFX.
Et comme à notre habitude, on va vous parler de deux jeux ce mois-ci. Alors pour ma part, je vais vous parler de Décrocher la Lune, un petit jeu d'adresse pas piqué des hannetons. Et Cyrus, toi, tu vas nous parler de...
Et moi, je vais vous parler de Paper Tales, un jeu de draft qui va vous évoquer beaucoup Seven Wonders.
J'ai hâte, parce que j'entends beaucoup parler, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore.
Et bah du coup, c'est parfait. Et moi, juste, j'ai quand même fait une partie de Décrocher la Lune, mais une seule, donc voilà, on va voir okay. ce que tu en penses. Alors avant de commencer la chronique, on va faire un petit tour sur les commentaires qui nous ont été adressés sur le site, donc relatifs à la dernière chronique jeu du mois. Donc on a décidé de séparer les commentaires par format, pour plus de fluidité en fait, hein, quand on présente cette partie simplement. Lors de la dernière chronique, je vous rappelle, on a parlé de Fabulosa Fructus et de Twinit. Et donc on a eu des commentaires de Monsieur Patate qui nous a dit qu'effectivement Fabulosa Fructus était un jeu très familial. Et lui pour sa part il a fait toute la campagne avec sa fille de 7 ans. Et effectivement ça marchait très bien. Il y a Aldebaran qui nous a simplement adressé un commentaire pour nous dire que c'était très intéressant et voilà, il nous remerciait. Alors merci pour ton commentaire. Et on a également eu un commentaire de Thomas Verschex qui a entendu la chronique et qui nous a fait une petite réponse très sympathique. Voilà, il amène quelques petites précisions, par exemple le tirage de l'affiche nous explique qu'il y a eu quand même 6000 exemplaires tirés. Voilà, donc effectivement il en reste quelques-uns, mais que selon lui c'est pas du tout un flop quoi. Il nous explique aussi qu'il n'y avait pas de frustration sur le fait que Rémi et Nathalie amènent la mécanique du jeu de cartes et il nous parle également, enfin il nous donne des conseils en fait sur le jeu en équipe et lui conseille plutôt de maintenir deux équipes quel que soit le nombre de joueurs en fait, voilà, de rester uniquement en deux équipes. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil à son commentaire, c'était très sympathique de sa part d'avoir pris le temps de répondre à ça, voilà.
Ça marche. Bah, je te laisse commencer.
Eh ben, c'est parti. Donc, Paper Tales, c'est un jeu de Masato Uezuki. Alors, je ne sais pas si je prononce très bien, mais voilà, c'est un auteur japonais. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Il est annoncé à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes. Alors, Masato Uezuki, on lui doit déjà d'autres jeux. Hein. On lui doit Welcome to the Dungeon.
D'accord.
On lui doit des extensions pour Lost Legacy. C'est la petite dédicace pour le pionfesseur qui nous en a parlé dans une précédente chronique.
C'est vrai.
Et on lui doit également 12 Heroes qui a été édité chez le même éditeur que Paper Tales en France en tout cas. C'est donc à savoir Catch Up Games. C'est un jeu qui a été illustré par Christine Alcouf qui offre pour la première fois dans le jeu de société. Elle est plutôt habituée à la littérature enfant en fait.
D'accord.
Donc je vous mettrai un lien vers son book, je vous mettrai ce genre d'informations. Et puis je sais qu'elle est en dédicace sur Strasbourg prochainement, donc voilà, je vous laisse vous renseigner un petit peu sur le sujet. En préambule, sachez que j'ai réalisé une interview de l'équipe de Catch Up Game à Essen, donc cette année. Donc on est mardi 31 octobre, donc j'ai réalisé l'interview mercredi la semaine dernière.
Tu reviens tout juste d'Essen, quoi.
Ouais, exactement. Je reviens tout juste d'Essen. Pas encore tout à fait frais, mais bon, ça va. et donc, je sais pas si je vais réussir à faire le montage avant, mais normalement, ça devrait être la première interview qui devrait être diffusée. Parce qu'en général, on fait dans l'ordre chronologique, voilà. Et du coup, peut-être que vous aurez l'interview juste avant la chronique.
Parfait.
Donc, dans cette interview, on parle du jeu. Du coup, il y aura peut-être quelques redites avec ce que je vais dire aujourd'hui. Ça, voilà, je m'en excuse par avance, mais bon, c'est... Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'interview, ça me paraît quand même nécessaire. Et puis dans l'interview, on parle beaucoup en fait de la boîte. De la boîte qui est un peu vide. Voilà,
ah.
Si on commence par là.
C'est une grosse boîte.
C'est pas une grosse boîte, mais c'est un petit. Enfin, disons qu'en tout cas, en termes de matériel, le matériel n'est pas abondant.
C'est essentiellement des cartes.
C'est ça, c'est essentiellement des cartes, il y a quelques pions, puis il y a un plateau. Aujourd'hui, pour justifier un tarif qui est le tarif du jeu, parce que voilà, ces éléments-là font, enfin, ce matériel-là fait que ce jeu est à ce tarif-là, en gros. Aujourd'hui, le marketing faisant, il faut que la boîte ait une certaine taille. Voilà, donc tout ça, c'est parti en fait d'un tweet de Mathieu Bossu sur Twitter, qui ironiquement disait ah la boîte est un peu vide, malgré qu'il aimait beaucoup le jeu, hein, ça l'un n'empêche pas l'autre. Et voilà, et toute une discussion s'en est suivie et on s'est lancé avec Catch-Up, on s'est dit bah voilà, faisons une petite interview, on parlera un peu de ce sujet. Et on en a parlé assez longuement, voilà. Je vous laisse donc aller voir ça si ça vous intéresse. Et donc je reviens au jeu en lui-même. Le jeu en fait c'est la réédition de Vorpal, c'est-à-dire qu'en fait ce jeu a connu une première vie au Japon. Donc il a été vendu comme beaucoup de jeux japonais vendus dans les game market, voilà.
Ouais.
Donc auto-édité par son auteur. Et donc il avait une apparence différente, hein. Il y avait des graphismes différents, donc qui ont été complètement revus par Christine Alcouf.
Oui, parce que l'illustratrice est pas japonaise du coup.
Non, l'illustratrice, elle est française. Je crois que l'édition d'origine, bah là c'est pareil, il nous en parle un peu dans l'interview. Les catch-up nous en parlent un peu. De mémoire, c'était un ami en fait, hein, de l'auteur, de Masato, qui avait fait les graphismes, donc bon bref, voilà. Effectivement, j'ai revu un peu les graphismes sur BGG, je vous laisserai le lien vers BGG pour que vous puissiez voir par vous-même. C'est, en tout cas, à mon goût, c'est la version française est beaucoup plus jolie. Il y a un côté un peu poétique dans la version française et un parti pris graphique assez fort sur un aspect papier découpé et collé les uns sur les autres. Donc en fait, en gros, par exemple, pour faire une main, c'est comme si on avait découpé un bout de papier qui faisait la main et que la main était recollée par-dessus le bras, quoi.
Enfin, ça correspond bien au nom du jeu, quoi.
Tout le nom du jeu. En fait, si j'ai bien compris, le nom du jeu a été tiré finalement du style graphique.
D'accord.
Qui est assez
original, ouais.
Voilà, assez original, effectivement. Le jeu en lui-même, donc, en fait, c'est un jeu qui s'appuie sur des mécanismes. Alors, quand je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez dire, bah, c'est pas possible, c'est un copier-coller de ces One Wonders. Et bah, c'est vrai que ça donne cette impression, parce que la mécanique principale du jeu, c'est du draft, déjà. Donc, chaque joueur récupère 5 cartes en main, il va en choisir une, et passer le reste à son voisin. La première différence avec Seven Wonders, c'est que quand il en choisit une, il va pas la poser tout de suite. Donc en fait, on va drafter comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs récupèrent 5 cartes, y compris la dernière qui donc est imposée, hein, par le joueur précédent.
On crée une main, quoi.
Voilà, c'est ça, on se crée une main de 5 cartes. Et à partir de cette main de 5 cartes, on va pouvoir peupler notre royaume. Le principe, en fait, c'est que ce sont des royaumes qui s'opposent. Et comme dans Seven Wonders, on va trouver un système de voisinage, c'est-à-dire que on va se confronter à nos voisins de gauche et de droite uniquement.
D'accord.
Donc là encore un point commun qui fait fortement croire en tout cas que le jeu est proche de Seven Wonders. Donc on va poser 4 cartes au début, au milieu sur notre tableau, qui est composé donc d'un quadrillage de 2 par 2. Et ça va avoir son importance parce qu'en fait, à la phase suivante, une fois qu'on a donc posé nos cartes, va se passer la phase de bataille. À la phase de guerre, en fait, ils appellent ça comme ça dans le jeu. Et la phase de guerre va opposer les lignes avant de chaque joueur. Donc, il va falloir. Il y a un aspect dimensionnel, si on veut, sur le jeu qui est relativement léger, mais en gros, initialement, il n'y a que 2 cartes parmi nos 4 qui participent à la bataille.
D'accord, c'est une notion de ligne.
Voilà, c'est ça, exactement. Et une notion de ligne qu'on.
On peut retrouver ça, je ne sais pas si nos auditeurs ont joué, mais dans Carnage de Devil Pig, où il y a une notion de. De première ligne, deuxième ligne, troisième ligne.
Ouais, j'ai jamais joué à Carnage.
D'accord.
Là, en tout cas, il y a que la première ligne qui combat, sauf exception. Ouais, évidemment, le jeu en fait va être bourré d'exceptions, mais qui sont hyper simples à aborder. Hein. C'est pas des trucs compliqués. Donc bref, vous allez opposer vos premières lignes et si vous remportez la guerre contre votre voisin de gauche et contre votre voisin de droite, vous gagnez en fait 3 points par guerre remportée, donc un maximum de 6 points. C'est un aspect dans le jeu qui est pas négligeable, les points qu'on ramasse avec la guerre. Et moi, j'ai pas encore fait des quantités énormes de parties, mais jusqu'à présent, il s'avère que la guerre, c'est difficile de passer complètement à côté. J'ai oublié de poser la question au catch-up, ça aurait été intéressant. Mais de mon point de vue, ça paraît assez difficile de faire l'impasse sur la guerre, en tout cas tout le long de la partie. Donc voilà, donc première phase on draft, la deuxième on va poser nos cartes, la troisième on fait la guerre, la quatrième on va récupérer des revenus qui vont nous permettre d'acheter nos cartes, je passe un petit peu sur les détails, mais la cinquième on va pouvoir construire des bâtiments. Là c'est aussi une différence avec Seven Wonders, on construit aussi des bâtiments dans Seven Wonders, mais là en fait c'est tout le monde part avec le même set de bâtiments au départ, on a tous 5 bâtiments au départ. et on va pouvoir donc orienter notre stratégie en fonction des bâtiments qu'on construit, parce que ces bâtiments-là vont nous rapporter des ressources. Et là encore, on va pouvoir faire un petit clin d'œil à Seven Wonders, parce que les ressources, elles fonctionnent exactement de la même façon. C'est-à-dire que d'un tour sur l'autre, on va pas accumuler des ressources. Le principe, c'est comme dans Seven Wonders, si on a l'icône de la ressource, c'est qu'on l'a. Et s'il nous en faut deux, bah, il nous faut deux icônes.
D'accord. C'est des ressources virtuelles qui sont sur les cartes et qu'on a à chaque tour, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est sûr que quand on liste un petit peu tout ça, on se dit, ça fait quand même beaucoup de points communs. Est-ce que le mec, il aurait peut-être pas un petit peu repompé quand même Seven Wonders, hein? Alors non, non. Je pense qu'il y a de l'inspiration. Faudrait demander à l'auteur, mais je pense qu'il y a de l'inspiration, mais il est vraiment parti sur autre chose et des sensations de jeu différentes. Parce que là où le jeu va vraiment prendre toute sa dimension, c'est la dernière phase. C'est la phase qui est appelée la phase d'âge, où nos unités vont vieillir. Donc les cartes qu'on a posées, oui, je ne l'ai pas dit, c'est des unités, c'est des personnages, donc, contrairement aux bâtiments qu'on pose en phase 5. Donc les bâtiments, eux, ils vont rester dans le temps, mais les personnages, eux, vont vieillir. C'est-à-dire qu'à la fin de notre tour, on va poser un petit marqueur sur chaque personnage, et avant de faire cette étape-là, si jamais il y a un personnage qui a déjà un marqueur sur lui, il va mourir.
D'accord.
Et donc, il est retiré du jeu. Et c'est ça qui va donner toute sa dimension au jeu, parce que en fait on va devoir sans cesse soit reconstruire sa stratégie, soit réadapter sa stratégie par rapport aux cartes qui nous restent pour trouver quelque chose d'efficient en fait. Il y a comme ça il y a une sorte de roulement à devoir se réhabituer en permanence d'un tour sur l'autre. Alors il n'y a pas non plus des tonnes de tours, il n'y a que 4 tours dans le jeu, donc ce qui permet d'avoir un jeu relativement condensé dans le temps, 30 minutes ça les tient en général. Sauf peut-être à la première partie ou quand on réintègre du coup des nouveaux joueurs.
On découvre un peu les cartes et tout ça, ouais.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. La première partie est un petit peu plus longue parce qu'effectivement il faut découvrir les cartes. Et chaque carte a des effets. Donc il y a des cartes qui rapportent des ressources, il y a des cartes qui vont combattre ensemble, il y a des cartes qui vont permettre de mettre des marqueurs de vieillesse. On se demande un peu pourquoi, parce qu'on perd ses unités. Mais en fait il y a des cartes qui ont des effets décuplés si. Plus elles sont vieilles. Tout genre de choses. Il y a vraiment des synergies qui se créent comme ça entre les cartes, des combos. Et puisque je parle de ça, donc Catch Up Games a diffusé tout un ensemble de vidéos.
Ouais, j'ai vu passer, ouais.
Voilà, tout un ensemble de vidéos stratégiques sur le jeu.
En fonction des personnages, c'est ça?
Exactement. Qui vont détailler, partant d'un personnage, quels sont les personnages qui vont bien ensemble avec lui, les stratégies qui peuvent marcher sur un tour, voire sur deux, etc., etc. Ça, c'est, alors j'ai trouvé que c'était une initiative plutôt sympa.
Ouais.
Ça me rappelle, alors je sais pas si t'as connu, a priori non, t'as pas connu, parce que du coup je me rappelle ton entrée dans le monde du jeu. Entre
ouais,
guillemets.
C'est relativement récent.
Il y avait Grunt, qui est alias Thomas Coe, qui
ouais.
tenait un blog qui s'appelle à la carte, enfin, qui s'appelait, je sais pas s'il est encore actif, et je pense aussi son site existait encore, enfin en tout cas s'il n'était pas maintenant parmi les éditeurs et s'il alimentait encore son blog, il aurait certainement pris Paper Tales comme sujet et aurait donc décrit comme ça les tactiques accessibles à partir de chaque carte. Je me rappelle en fait qu'il avait fait ça par exemple pour Race for the Galaxy.
D'accord.
Pour recouper avec ma précédente chronique sur en plateau numérique. voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre autour de tout ça? J'ai eu un tel débile que je. Je sais pas si toi t'as des questions en particulier déjà.
En fait, du coup il y a 4 tours de draft, c'est ça, et après chaque tour de draft, on va jouer 4 cartes sur les 5, c'est ça que tu disais ? Ou on joue les 5 cartes ?
Alors en fait, au niveau des bâtiments, t'as deux niveaux sur les bâtiments. Donc tu peux construire un bâtiment au niveau 1, et ensuite tu vas pouvoir l'améliorer. Encore une fois, je passe un peu les détails, mais t'as aussi la possibilité de construire directement ton bâtiment au niveau 2. Si à partir du moment où tu as un bâtiment niveau 2, tu as en bonus la possibilité d'ajouter une troisième carte sur ta ligne du haut.
D'accord.
Ce qui est loin d'être négligeable sur les aspects de guerre. Et du coup, à partir de là, effectivement, tu vas
jouer tes 5 cartes.
Ouais, tu vas pouvoir jouer tes 5 cartes. En fait, tu vas toujours en rajouter une. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu as tes 5 cartes et qu'au début t'en poses 4, t'en as une en trop, on est d'accord.
Oui, ouais.
Et celle-là, tu peux la défausser si t'as envie, mais tu peux aussi la conserver.
D'accord.
À chaque tour de jeu, tu peux conserver une carte d'un tour sur l'autre.
D'accord. Donc,
tu peux éventuellement anticiper ta stratégie pour la suite, soit un changement de stratégie, soit la possibilité de garder une cartouche pour te réadapter sur la manche suivante, quoi. Alors aussi comme dans Seven Wonders, donc un coup on draft à gauche, un coup on draft à droite, voilà, bon ça c'est somme toute assez classique. Et c'est un jeu dans lequel on se rend compte que le draft est, enfin il est important en tout cas de pratiquer le blocage sur le draft, parce que la stratégie d'un joueur elle est assez visible, parce que tout est posé devant lui, et on voit par exemple si il s'appuie plutôt sur la ressource de nourriture, s'il s'appuie plutôt sur l'or, on a de l'or pour jouer ses cartes, si plutôt il s'appuie sur des stratégies liées à la vieillesse, donc ça c'est assez visible, et du coup il faut faire attention à ça et bien bloquer les cartes. Donc quand on joue avec des nouveaux joueurs, on a tendance à se retrouver un peu comme dans Seven Wonders, à voir le mec qui est coincé en le mec qui a la chance d'être entre deux noobs,
ouais, qui récupère toutes les bonnes cartes, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. Donc il faut se méfier un petit peu de cet aspect là éventuellement dans le jeu pour vos premières parties ou pour vos parties qui intègrent des nouveaux joueurs. Une différence essentielle avec Seven Wonders, outre du coup cet aspect H qui juste, enfin j'en rajoute juste pour vous convaincre que c'est un jeu très différent de Seven Wonders, hein, parce que là l'aspect H il va vraiment donner une dimension complètement différente. Mais il y a un autre aspect aussi que j'ai remarqué, c'est que le fait qu'on pose ces quatre cartes en même temps et non pas une par une, ça fait qu'on, au premier tour en tout cas, on n'a pas trop d'idée de vers quelle stratégie s'orientent nos adversaires. Alors ouais. Ça c'est un peu un inconvénient par rapport à un jeu comme Seven Wonders, parce que en termes de blocage justement, comme je disais avant, on peut pas pratiquer ce blocage au premier tour. Donc on peut se retrouver, il faut bien faire attention quand même au choix qu'on a laissé à notre adversaire, et on peut se retrouver du coup être planté par un adversaire qui va nous faire la guerre tout le long avec des cartes super balèzes, parce qu'il est déjà bien parti au départ en fait. Si on lui laisse déjà une carte qui a une force de 4 au début, il va la garder 2 tours déjà, donc il va être tenté de continuer un petit peu dans ces stratégies là et on peut se faire bien plomber parce que comme je disais, la guerre c'est quand même faut pas trop laisser passer ça, quoi.
C'est vrai que ça c'est un élément très différenciant de Seven Wonders, où en fait à chaque tour de draft tu poses une carte et du coup tu peux vraiment t'adapter dans un même tour par rapport à ce que les autres font, quoi.
Exactement. Ouais, ça, on a remarqué que ça crée une différence quand même essentielle.
Et du coup, toutes les cartes sont draftées, c'est-à-dire que au dernier draft, tu prends la carte qu'on te laisse et puis c'est tout, t'as pas de choix, il y a pas de carte qui est défaussée en fait, comme dans certains drafts où au dernier draft en fait, t'as 2 cartes et la dernière est défaussée, quoi. Elle est pas forcément passée au suivant.
Non, là tu les as toutes. Tu les as toutes dans ta main, mais normalement tu vas pas toutes les jouer en fait.
Ouais, mais t'as aucun choix sur la dernière carte, quoi.
Non, t'as pas le choix sur la dernière carte. Effectivement. Et ce que je voulais dire justement sur cet aspect-là, c'est que oui, quand même, pour contrebalancer la petite critique que je fais sur le premier tour, au premier tour, on peut pas non plus. On a 2 pièces. On démarre avec 2 pièces. Il y a plein de cartes qui coûtent 2 pièces ou au-delà. 3, 4, il y en a une qui coûte 9, je crois.
Donc tu payes à chaque fois que tu joues une carte? Où il y a des cartes gratuites quand même.
T'as des cartes à 0, voilà, t'as des cartes gratuites. Du coup, tu sais quand même, par rapport à ce que tu passes à ton adversaire, tu sais, une carte à 4, il va pas pouvoir la payer au premier tour.
Mais les cartes, du coup, c'est forcément de l'argent ou ça peut coûter d'autres ressources? Comme tu me disais qu'il y avait de la nourriture ou de l'or aussi.
Non, c'est forcément de l'argent. Ouais, les autres ressources, ça sert à faire des combos, enfin des combos.
Des actions, etc.
Ouais, c'est ça, toutes tes cartes, elles ont quasiment une capacité.
D'accord.
Soit qui va s'activer au moment de la pause. Au moment où tu poses ta carte, ça va avoir un effet. Soit au moment de la phase de revenu, elles vont te rapporter de l'argent. Ça peut être en phase de guerre. Si tu gagnes des guerres, elles vont te rapporter 1 ou 2 points en plus. Par exemple, des choses comme ça. Pareil pour les bâtiments, en fait. Ils vont avoir des effets comme ça. Ou alors, ils vont ramener des ressources qui te permettent de construire les autres bâtiments. Ou de... T'as des effets, par exemple, qui font... pour chaque bois que tu as en phase de guerre, tu gagnes 1 point, je crois. Si tu dis pas de bêtises, il y a un bâtiment qui donne ça, par exemple.
D'accord.
Voilà, donc tu... Il y a... Il y a plein de façons de marquer des points, hormis la façon que je disais, la principale que j'expliquais, c'est
la guerre. Quoi.
Voilà. Les unités en elles-mêmes, elles ne rapportent pas des points, c'est-à-dire que les unités qu'on a en fin de partie, elles ne rapportent pas de points, mais c'est des effets qu'on aura déclenchés au fur et à mesure de la partie qui vont avoir rapporté des points.
Donc en fait, tu accumules les points au fur et à mesure de la partie, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est pas un comptage à la fin ou à la fin d'un tour ou...
Non, t'as juste les bâtiments qui rapportent des points en fin de partie. Bâtiment niveau 1, il rapporte un point. Un bâtiment niveau 2, il rapporte 3 points. Voilà. Après, je vais pas expliquer toutes les cartes. Il y a vraiment une grande diversité de cartes. Je sais pas combien il y a de types de cartes différents, mais elles sont soit en 1, soit en 2, soit en 3 exemplaires. Sachant qu'il y a, je crois, 85 cartes de personnages.
D'accord.
Donc 81 cartes de personnages.
Oui, il y a de quoi faire.
Il y a pas mal de diversité, de quoi faire des stratégies différentes. En même temps, il y a peu de chances que vous preniez 20 points dans la vue. Les parties, elles sont censées tourner à une trentaine de points, je crois. Bon, j'ai pris une claque là récemment. Là, j'ai essayé une stratégie qui a pas du tout marché. Voilà, donc j'ai laissé une adversaire mettre 48 points, je crois, un truc comme ça. Enfin,
bon, ah ouais.
C'était pourtant sa première partie. Mais tu vois, je comptais sur le fait que ce soit des débutants sur la première partie. Je vais essayer une stratégie. Tu vois. J'ai complètement fait planter. Bon, voilà. Bah, j'ai pas fait la guerre, par exemple, tu vois, très peu.
T'arrives à t'asseoir, ça va?
Ouais, ça va. Là, c'était à Essen, donc du coup, on était beaucoup debout, on a beaucoup marché.
Ouais.
Non, c'est vraiment un jeu intéressant. Ça se joue vite, ça s'emporte partout. Clin d'œil. Parce que si on enlève la boîte, ça s'emporte partout. On n'est pas obligé de prendre le plateau. Il faut prendre un petit compteur, un système pour compter les points, quoi. C'est un peu plus chiant, mais ça se fait.
On a vu des photos sur l'allée d'Essen de parties dans les trains, quoi. Donc ça joue même, ça peut même se jouer dans un train.
Bah oui c'est ça, parce que finalement l'espace que toi t'occupes il n'est pas énorme, quoi. Il faut juste réussir à caler le plateau de score, comme je disais, mais à la limite t'as une application pour compter les points et c'est bon.
Ouais, parce que le plateau sert qu'à compter les points, du coup.
Oui, ça sert qu'à compter les points et les tours qui passent, mais bon, ça va, pour retenir 4 tours, c'est faisable.
Ça, on devrait s'en sortir.
Et normalement tu vois, enfin selon le nombre de joueurs, tu vois un peu à l'épaisseur du tas, quoi.
Ouais.
Quand tu joues à 5, tu t'épuises le tas, il faut que tu remélanges en gros. En dessous de ça, normalement, le tas il est tout juste fini. Voilà. J'ai pas fait énormément de parties, j'en ai fait 5 ou 6, je crois, pour l'instant. Sachant que j'en ai fait 2 à 2 joueurs. Alors, à 2 joueurs, il y a quelques adaptations de règles qui sont pas énormes. Hein. En fait, tu peux gagner une double guerre en gros si t'as 2 fois le score de l'adversaire, tu gagnes 2 fois les points de la guerre.
D'accord.
Et puis, je sais plus, il y a une autre adaptation, je m'en rappelle plus là comme ça. Mais c'est pas la meilleure configuration quand même. C'est une adaptation qui a été vue avec Catch-Up. Alors, du coup, j'ai vérifié quand même, mais Vorpal c'était déjà annoncé à partir de 2 joueurs. Du coup, j'ai pas bien compris pourquoi il m'avait parlé d'une adaptation spécifique à la version française.
Peut-être que la version 2 joueurs était encore moins bien, quoi.
Ah, peut-être qu'effectivement il n'y a pas les adaptations. Je sais pas. Il n'y a peut-être pas les adaptations, effectivement. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé la deuxième adaptation. En fait, tu draftes pas 5 cartes. T'en draftes 9. Et à chaque tour, tu en es.
Ah ouais.
Tu en es.
T'en défausses.
Ouais, c'est ça, t'en écartes une.
D'accord.
Du coup, ça laisse plus de choix quand même.
Ouais, et puis pour éviter que ce soit du pur aller-retour de paquets de cartes, quoi.
En revanche, du coup, tu maîtrises beaucoup mieux ce qui se passe, hein, forcément.
Ce que tu laisses à l'autre.
Voilà. C'est l'avantage de l'aspect de joueur. Mais voilà, moi je suis pas très fan.
Les jeux de draft à 2 joueurs, c'est toujours un peu compliqué.
C'est ça, ça devient...
Ça dénature un peu le produit, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça.
Ça enlève un peu le charme et puis le...
Ouais, ça enlève un petit effet KO qui est quand même intéressant finalement dans le jeu. De la carte que tu cherches et que finalement tu trouves pas, toi, ça m'est arrivé assez souvent de chercher une carte et puis de dire merde, on va dire un type de carte, parce que tu cherches pas forcément une carte en particulier, mais il y a plusieurs cartes qui vont dans une stratégie donnée, et puis tu vois l'état tourner, tu fais merde, toujours pas, et puis tu te dis putain, là il reste plus que 2 cartes et il y a très peu de chances qu'elles soient encore là, quoi.
Ouais, ou quand t'hésites entre 2 et que tu te demandes si celle que tu laisses va faire un tour de table, quoi, et tu vas pouvoir récupérer.
Alors là, justement, à 5 joueurs, enfin, pardon, avec 5 cartes, 5 joueurs, de toute façon, tu la retrouves pas. À 4, tu peux en récupérer une, mais bon, voilà, espérer que ce soit la bonne, faut pas rêver. Hein. Même à 3, toi, t'en récupères 2 dans ta main, c'est pas gagné quand même. Faut pas trop compter là-dessus, du coup, sur l'aspect draft. Ça marche, allez, peut-être, on va dire jusqu'à
3 joueurs.
Pour 2, 3 joueurs, ça marche, mais au-delà, ça marche plus. Et
c'est vrai que 5 cartes, ça va assez vite.
Oui. Voilà, donc ouais, c'est un chouette jeu. Moi, je vous recommande pour son dynamisme. Voilà, c'est si vous vous posez la question, c'est pas comme Seven Wonders, ça a vraiment une sensation différente. L'aspect vieillissement est vraiment intéressant parce qu'il vous force à soit repartir dans votre stratégie. Et là, bah, je peux vous dire que voilà, si vous jouez avec des joueurs un peu confirmés et qui sont pas complètement noobs, bah, ils vont pas vous laisser passer les cartes qui vont dans votre stratégie, surtout si vous avez pété les scores sur les tours d'avant. Et les graphismes sont chouettes. Alors, visiblement, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Bon, bah, c'est comme tous les graphismes, à la limite, j'ai envie de dire. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal, c'est intéressant.
Et du coup, c'est marrant cet aspect ressemblance un petit peu, même s'il y a beaucoup de différences avec Seven Wonders, puisque Antoine Boza a bossé récemment avec cet auteur sur la suite de Welcome to the Dungeon. Ils ont fait un Welcome Back to the Dungeon auquel Antoine Boza a participé. Donc je sais pas si... Enfin, a priori, la version originale existait depuis plus longtemps, tu sais, Vorpals, c'est ça ?
Vorpals, je crois que ça a quelques années quand même.
D'accord, ok, donc ça existait avant que Antoine Boza travaille avec... Parce que Welcome Back, oui. C'est l'année dernière, je crois, hein, ça doit être 2016.
Oui, et Vorpals, du coup, je suis allé checker vite fait, c'est 2010.
D'accord, ah oui, donc c'est bien plus vieux.
C'est bien plus vieux, effectivement. Il a mis un paquet de temps finalement à arriver en France, ce jeu. Je crois que les jeux ils ont une durée de vie qui est parfois un petit peu plus longue au Japon, du coup qu'on les retrouve sur 2-3 game market. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait s'attendre du coup à ce que le jeu il est tiré en 500 exemplaires, il est vendu au game market puis c'est fini, mais j'ai cru comprendre que c'était pas forcément si simple quoi.
Mais d'ailleurs tu disais 2010, c'est pas la date de sortie de Seven Wonders aussi?
C'est une bonne question.
Ouais, je crois que c'est dans les eaux là aussi. C'est 2010.
Pas très loin, ouais.
Il me semble. Ah, c'est marrant du coup. C'est...
Écoute, c'est 2010 aussi. Alors ouais, du coup, on va savoir qui a pompé l'autre.
Bah ouais. Non, c'est une. C'est peut-être une pure coïncidence. Hein.
C'est possible en effet. Il y a souvent des tendances qui sont dans l'air du temps. Donc voilà. Je sais pas si toi t'aurais des questions éventuellement à ajouter. Sinon,
non, j'ai hâte de le tester. Alors il faut pas dire tester, il paraît, mais j'ai hâte de l'essayer parce que je l'ai vu passer pas mal ces derniers temps sur Twitter, pas mal de copains qui en parlent. Et voilà, j'ai envie de l'acheter pour l'essayer parce que j'ai pas eu l'occasion de faire une partie à quelqu'un qui l'avait déjà.
Je sais pas si tu te rappelles, moi je l'avais essayé à Cannes en fait, et quand on a fait le débrief, j'en avais parlé du coup, déjà, de Paper Tales.
Oui, je me souviens.
Bon, en fait, cela dit, c'est rare que j'achète un jeu sans l'essayer. Du coup, c'est assez logique si je fais un débrief du coup d'un festival que le jeu il se retrouve un jour dans une chronique, quoi. Mais dans une chronique jeu du mois. Attendez-vous à retrouver des cryptos un jour dans une chronique jeu du mois. du coup je vais juste conclure avec la fiche signalétique. Donc Paper Tales, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, un jeu de Masato Uesugi, illustré par Christine Alcouf. Un jeu annoncé à partir de 12 ans, je pense qu'effectivement faut pas trop compter le faire avant. Parce que bon, en tout cas pour jouer correctement ça va être assez compliqué. Je sais pas si c'est bonne ambiance pour le coup, je crois que c'est à peu près pareil, non?
Ouais, c'est 10 ou 12 aussi, ouais.
Il donne 10 ans pour ces
10 ans, ouais.
Ouais, c'est. Les effets sont peut-être un poil. Enfin, encore que. Il est un poil plus complexe, mais même pas, parce que finalement, il y a une aide de jeu. Moi, je repars sur des, je repars sur des éléments. Il y a une aide de jeu qui est super bien faite, qui décrit bien les. Parce qu'il y a 6 phases dans le jeu. Elles sont hyper simples, hein, mais elles sont bien décrites sur l'aide de jeu, qui est de la taille d'une carte. Sur le recto, donc, il y a les différentes phases. Et sur le verso, il y a l'explication de l'iconographie. Pour tout vous dire, l'iconographie, je n'y suis... J'ai jamais regardé l'aide de jeu, en fait. Tellement c'est évident. Voilà. Donc je peux même pas vous dire si elle est bien faite, la partie iconographie sur les deux jeux. Mais l'iconographie est bien faite. Voilà, ça je peux vous le dire. Donc voilà. Du coup, je reprends la fiche analytique, donc illustrée par Christine Alcouf. Pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties annoncées de 30 minutes sur la boîte. On peut dire aller jusqu'à 45 minutes, peut-être une heure pour la première partie, mais vraiment si vous avez des limaces autour de la table. Et le jeu est disponible chez Philibert. Oui, il est dispo. au moins ce mois-ci, on en a au moins un. J'ai pas regardé le tien. Pour 25,90€.
Okay, ouais, mais cool. Pepperfell, j'ai regardé il y a quelques semaines, il était en rupture. Enfin, ou juste avant Essen, là, il y a eu une petite période de rupture, quand même.
Ouais, d'accord. Petite période de rupture, je pense, chez Philibert. Mais ouais. Tardez, si ça vous intéresse, tardez pas trop à l'acheter. Un petit conseil comme ça. Voilà, j'ai quelques petites infos qui tendent à dire que
ça sera rarifié.
Il y a un retirage de prévu, mais voilà, c'est produit en Chine. Voilà.
Le nouvel an, tout ça, tout ça.
Non, ça devrait peut-être quand même être avant, mais bon.
Ouais.
Un petit conseil. Voilà, Paper Tales.
Très bien.
Et bah du coup, c'est à ton tour.
Eh bien, passons à Décrocher la Lune. Donc, comme je vous le disais en intro, Décrocher la Lune, c'est un jeu d'adresse et d'agilité. C'est un jeu donc de Fabien Riffaut.
D'agilité carrément. Tu m'intrigues là.
Ouais. Enfin ouais. D'adresse. Non, agilité. Ouais, faut être agile avec ses doigts quoi. D'agilité. D'agilité digitale. C'est de l'agilité digitale. Donc c'est un jeu de Fabien Riffaut et Juan Rodriguez. Alors ça m'a un peu étonné parce que c'est le duo d'auteurs à qui on doit les poilus. Donc pour ceux qui ont joué au Poilu, c'est un jeu coopératif assez exigeant, qui comme beaucoup de coop, qui est assez dur. Et donc c'est un style qui est complètement différent de Décrocher la Lune, qui est vraiment un jeu d'adresse. C'est illustré par Emmanuel Malin, c'est édité par Bombix. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans, parce qu'il n'y a pas forcément de lecture ou quoi que ce soit, même si ça peut être un petit peu technique au niveau de l'adresse. Et c'est pour des parties de... si vraiment les gens sont mauvais, ça va durer 10 minutes. Et si on a vraiment des gens qui sont assez doués, ça peut monter à 20 minutes. Mais voilà, c'est sur une quinzaine de minutes. Donc le principe est assez simple. On a un socle en plastique qui représente en fait le dessus d'un nuage et on veut décrocher la lune. Donc pour ça, on va empiler des échelles pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc sur ce petit socle, en fait, il y a des petites encoches pour mettre deux échelles de base qui sont des échelles droites. Donc des échelles dont les armatures des barreaux sont parallèles. C'est les seules échelles du jeu qui sont droites. Toutes les autres échelles qu'on va rajouter par la suite sont plus biscornues.
T'as pas intérêt à les perdre celles-là déjà.
Non, alors déjà on en met que deux au départ et il y en a trois dans la boîte. Donc je pense qu'ils ont prévu le coup. Il y en a une petite en rab. En fait, il y en a deux qui sont identiques et il y en a une qui est un petit peu différente au niveau des barreaux, au niveau de la répartition des barreaux et au niveau de la direction des barreaux, c'est un petit peu différent.
Là, je parlais même pas de les perdre dans ce sens, je disais genre de les perdre dans la boîte, tu vois, enfin de pas les manger parce que.
Alors c'est pareil, c'est bien foutu. Il y a un espèce de thermoformage. Alors déjà le thermoformage, moi je l'aime bien parce que c'est pas du plastique classique. Il y a une espèce de petite feutrine dessus. C'est tout doux, c'est tout joli. ça fait très nuage et tout ça quoi.
Tu caresses souvent les thermoformages?
Bah celui-là oui. Non mais celui-là il est doux. Et voilà, et dans ce thermoformage en fait, il y a un emplacement principal, un gros emplacement dans lequel on va mettre le socle en plastique et toutes les autres échelles. Et après t'as une petite fente spécifiquement pour les trois échelles droites du début de partie. Enfin tu vas en utiliser que deux. Après je vais expliquer un peu, mais il y a un petit compartiment pour les larmes de lune, on va expliquer ce que c'est, et il y a un petit emplacement pour le dé, parce qu'il y a un dé dans le jeu. Donc comment ça se passe, décrocher la lune, on a ces deux échelles de base sur le socle, et donc À chacun son tour, les joueurs vont devoir placer une échelle supplémentaire sur les deux échelles de base, puis sur les 3, 4, 5, enfin sur toutes les échelles qui vont être placées. Et pour ça, il va y avoir une condition de placement qui va être définie par le dé. Donc le dé, c'est un dé à 6 faces, où il y a 3 conditions possibles, qui sont en 2 exemplaires chacun sur le dé. Donc la première condition, qui est assez simple, c'est l'échelle que je vais placer sur les échelles déjà existantes ne doit toucher qu'une seule échelle. Strictement. Elle ne peut pas en toucher 2, elle ne peut pas en toucher 3, elle doit en toucher strictement une. Mmh. Donc on va devoir prendre la petite échelle et la placer sur une des deux qui est déjà existante. Alors l'échelle ne doit jamais toucher le sol ou le socle et ne doit pas tomber non plus. Donc il faut trouver un équilibre, soit en fait accrocher le barreau à un bout d'échelle qui dépasse, soit glisser l'échelle, comme il y a différentes largeurs, on peut peut-être glisser l'échelle entre deux barreaux et puis faire un point d'appui pour que ça passe. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc première contrainte, ça peut être une seule échelle. La deuxième contrainte, c'est de toucher strictement deux échelles. Donc là, c'est pareil, je ne peux pas en toucher qu'une, je ne peux pas en toucher trois, je dois toucher que deux échelles. Et la troisième condition, ça va être la lune. Donc là, la lune, en fait, faut que mon échelle, quand je l'ai lâchée, elle soit, il faut qu'il y ait une partie de cette échelle qui soit plus haute que toutes les autres échelles déjà en place.
Et donc, là, c'est là que effectivement, d'où le titre du jeu, quoi. Parce que l'idée, c'est quand même c'est de monter, quoi.
Et c'est là où ça devient intéressant, parce que forcément, il y a des lunes qui vont arriver au fur et à mesure, et forcément, on va devoir monter de plus en plus haut. Et alors pareil, la lune, c'est pas parce qu'il n'y a pas de condition d'échelle que j'ai le droit de toucher plus de deux échelles. Dans tous les cas, même pour une lune, j'ai le droit de toucher que une ou deux échelles. Je peux jamais toucher plus de deux échelles.
Donc du coup, c'est plutôt celle-là, la face à la con, quoi.
Ouais, c'est la face ouais. Vraiment la plus compliquée, la face technique. Alors, les échelles, en fait, elles sont vraiment de formes très différentes. Elles sont en espèce de, alors je sais pas si c'est un espèce de d'aggloméré ou un espèce de carton bois, je saurais pas dire la matière, c'est assez proche du bois, hein, c'est assez dur, c'est assez rigide quand même. Et donc il y a plein de formes différentes. En fait il y a 9 formes d'échelles différentes et il y a 3 exemplaires de chaque forme. Donc on a 27 D'accord. échelles disponibles dans la boîte, plus les 3 échelles de base, donc ça fait 30 échelles en tout, réparties sur 10 formes d'échelles du coup. Ces échelles, du coup, au début, c'est assez simple, puisqu'il y a assez peu d'échelles et on peut facilement s'accrocher à l'une ou l'autre. Et au fur et à mesure, on va vraiment connecter les échelles les unes aux autres. Et en fait, ce qu'on a le droit de faire, par contre, tant qu'on n'a pas lâché l'échelle, on a le droit de trifouiller, en gros, dans les échelles déjà posées. C'est-à-dire que je vais pouvoir un peu bouger les trucs, essayer de les replacer avec mon échelle. Tant que je la lâche pas et tant que je fais pas tomber d'autres échelles, j'ai le droit de farfouiller un peu dans le sac de nœuds d'échelles pour essayer de trouver une position. J'ai le droit d'essayer de poser une échelle, de l'accompagner pour voir jusqu'où ça va. Tant que je lâche pas, j'ai le droit un peu de faire ce que je veux, mais toujours à une seule main. Ça, c'est important aussi dans la règle.
Et tu peux carrément essayer de changer d'endroit, quoi. Tu peux la poser d'un côté et finalement aller carrément ailleurs, quoi.
Ouais, tant que je la lâche pas, que j'arrive à la sortir, que je fais pas tomber ou toucher le socle par une autre échelle,
ouais.
Voilà, tant que je fais pas de catastrophe, j'ai le droit d'essayer un peu des combinaisons différentes. Et en fait, au début, ça peut paraître compliqué parce que on a l'impression qu'une fois qu'il y a 3, 4 échelles, on va pas réussir à s'en sortir. Mais en fait, il y a plein de techniques, il y a vraiment plein de techniques qui permettent de placer les échelles. Et on peut vraiment trouver des points de bascule, des points de blocage. Alors, il y a certaines échelles où les barreaux sont pas continus, c'est-à-dire que ça va faire une sorte de crochet. Donc ça, on va pouvoir utiliser ce genre de crochet aussi. Et d'ailleurs, à la fin de la règle, il y a un carnet de figures avec les différentes techniques. C'est assez marrant. Donc les techniques sont décrites. Il y a des petits schémas, c'est assez rigolo. La technique du croc en jambe, la technique de la diagonale du fou, la technique de la balancelle.
Ils leur ont donné des noms.
Il y a même des noms. La technique du verrou. Parce que finalement, en fait, plus on va mettre d'échelles, plus on va constituer des endroits qui sont relativement solides et qui sont relativement stables, sur lesquels on va pouvoir rajouter d'autres échelles, etc. Donc, comment on gagne et comment ça se passe?
Déjà, qu'est-ce qui se passe déjà quand tu fais tomber des échelles?
Voilà, donc si tu ne respectes pas la condition qui t'était donnée par le dé, ou si tu fais tomber des échelles, eh bien, tu vas décevoir la lune qui attend que tu arrives à elle. Et du coup, la lune, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pleurer, elle va lâcher une petite larme.
Ah.
C'est joli, hein, c'est poétique.
C'est
donc,
poétique.
Dans le matos, il y a 7 larmes de lune en bois. Et ces larmes de lune, en fait, ça va être comme des points négatifs. Donc, si j'échoue dans ma mission d'atteindre la lune, je vais recevoir une larme de lune. Et le jeu peut s'arrêter de deux manières différentes, soit à l'épuisement des 7 larmes de lune, soit à l'épuisement des échelles. Dans le cas de l'épuisement des larmes de lune ou des échelles, la personne qui a le moins de larmes de lune remporte la partie. Seulement, il y a quelques petites subtilités.
Ouais, parce que enfin, du coup, tu peux forcer quelque part la fin de partie. Et parce que quand tu joues à 2 ou 3, par exemple...
Imaginons, t'es la personne qui n'a pas du tout de larmes de lune, toutes les autres ont des larmes de lune.
Deux, par exemple.
Et il en reste qu'une, tu pourrais jeter l'échelle par terre pour mettre fin à la partie. Eh bien non, puisque...
Moi, je ferais ça.
Ouais, bah, je te connais, je sais bien que tu ferais ça. Mais ils ont pensé, les auteurs ont pensé aux filous comme toi. En fait, la dernière larme de lune, elle est un peu toxique, en gros. C'est-à-dire que si tu récupères la dernière larme de lune, tu as forcément perdu. Même si c'est toi qui en as le moins. En fait, il faut... Tu termines ta partie sur une réussite. Tu peux pas terminer ta partie sur un échec, même si c'est toi qui en as le moins. La dernière larme est forcément éliminatoire.
D'accord.
Et il y a un autre cas de figure qui est assez marrant. Par exemple, il y a une égalité à la fin. Ça se termine, si ça se termine en larmes de lune et qu'il y a une égalité, en fait, les deux personnes qui sont à égalité avec le moins de larmes de lune vont tour à tour placer une échelle. Mais là, ils vont pas lancer le dé, ça va être forcément les conditions de la phase lune. Donc, ils vont forcément devoir monter plus haut que l'autre, et ainsi de suite. Et là, c'est intéressant parce que c'est un match à mort, quoi, jusqu'à qu'il y en ait un qui craque et qui arrive pas à remplir la condition de la lune. Et ouais, c'est là que ça peut faire des sacrés duels à la fin. Moi, j'en ai eu un il y a pas très longtemps au bureau où on était avec un collègue, on était tous les deux sur l'enlis, et on est arrivé à l'épuisement de la boîte.
Des échelles.
Des échelles. Alors qu'on était à l'épuisement des larmes de lune déjà, il restait 3-4 échelles quand on a épuisé les larmes de lune. Et dans ce cas, il y a quand même égalité. S'il n'y a plus d'échelles et qu'il y a une égalité en larmes de lune, c'est ceux qui en ont le moins à égalité qui se partagent la victoire.
D'accord.
Alors, c'est un jeu que j'ai donc qui est sorti cet été, juillet 2017. C'est un jeu que j'avais vu passer depuis un moment, puisque la première fois que je l'ai vu en prototype, c'était aux Asmodées de 2015. Donc les Asmodées, c'était en octobre, je crois, 2015. Donc c'est la première fois que je l'ai vu. Et à l'époque, j'y avais pas prêté beaucoup d'attention, parce que les jeux d'adresse, au départ, je suis pas très adroit, je suis un peu gauche, et c'était à une période où je recherchais vraiment du gros jeu. C'était je découvrais vraiment le milieu, et du coup j'étais passé de trucs un peu mainstream à chercher du gros jeu à tout prix. Donc j'étais passé un peu à côté. Et pareil, à Cannes, je l'avais vu, la version quasi finale, à Paris Ludique aussi, j'avais vu passer, mais je m'étais pas arrêté pour jouer. Et en fait, j'ai fait une ou deux parties au flip cet été, sur une version surdimensionnée.
Parce que j'allais te dire, moi j'avais vu une version surdimensionnée à Cannes 2015 du coup.
Ouais. 2015
ou 2016?
Non, 2016 je pense.
Peut-être 2016, ouais, ça devait être.
Parce
2016,
que je crois qu'ils ont présenté le proto à Bombix au off de Cannes 2015. Donc je pense que c'était plutôt...
Ouais,
en 2016,
oui, parce que c'était l'année où ils avaient fait des espèces des Asmonites, voilà. Donc c'était 2016.
C'est 2016, ouais.
Et j'avais vu tourner avec effectivement une version surdimensionnée. Je me suis demandé ce que c'était que ce truc. Effectivement, j'avais bien compris que c'était un jeu d'empilement, mais ouais, ça avait l'air surprenant, et je m'étais demandé comment ils allaient pouvoir produire un truc comme ça, en fait.
Bah, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le produit final est vraiment très joli. Alors, j'ai pas parlé des illustrations, mais il y en a pas finalement beaucoup, à part la couverture et le livret de règles. Hein. Donc, c'est des illustrations qui sont assez jolies, c'est assez onirique, hein, c'est très léger. On est un peu dans l'esprit, entre ouais, Dixit, le petit prince, enfin, c'est quelque chose de très.
Dixit, la première, enfin, la version d'origine, quoi.
Ouais, Dixit original, ouais. quelque chose de très
quart d'oie.
Ouais, c'est ça. On est sur quelque chose de très onirique, très joli. Ça va très bien avec le thème.
Et là, c'est qui du coup l'illustrateur?
Il s'appelle Emmanuel Malin. Donc je connaissais pas.
Ah,
je suis pas trop allé voir ce qu'il faisait. J'irai voir s'il y a un petit site ou un petit blog à vous mettre. Et donc c'est un jeu qui m'a beaucoup séduit parce que il y a vraiment de la technique. On peut vraiment faire des trucs vraiment sympas à niveau technique. Et visuellement, moi je trouve ça vraiment super visuellement. C'est vraiment quelque chose qui attire sur la table. J'ai une asso avec laquelle on anime un peu des soirées jeux et j'en ai animé une il n'y a pas très longtemps et je l'ai sortie et c'est vraiment un truc qui attire l'œil et les gens viennent par curiosité et en plus comme c'est des parties assez rapides, les gens se relaient à table pour l'essayer quoi.
Ça sent le jeu quand même très grand public finalement parce que tu peux attirer,
oui.
Je pense que tu peux jouer avec ta famille.
Ah ouais, tu peux jouer avec n'importe qui.
Avec papy mamie, s'ils n'ont pas trop la tremblotte. Quoi,
c'est ça. Ah ouais, là, la tremblotte, ça peut être assez fatal. Quoique, tu as certaines positions où même en tremblant un peu, si le reste des échelles est assez stable, ça peut aller. Après, t'as les petits coquins qui, dans certaines positions, t'arrives à avoir des échelles qui sont relativement horizontales.
C'est donc, quand tu mets coquin et position dans la même phrase, ça fait bizarre quand même.
C'est toi qui as l'esprit, moi.
Je dis ça comme ça. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Il faut voir le carnet de figures. Hein. Vous pouvez essayer de faire ça chez vous, mais je pense que c'est compliqué. Donc des échelles qui sont quasi à l'horizontale, et donc il y a des petits coquins qui vont juste poser l'échelle par-dessus. Sans aucune accroche, sans aucun truc. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est vraiment assez amusant. En plus, on se prend vraiment au jeu d'essayer de placer des échelles dans des positions pas possibles. Des fois, on essaye de faire des figures, quoi. C'est pas pour, on joue pas la gagne, on joue vraiment la position d'échelle la plus improbable qui tienne, etc.
Ça me fait penser, en fait, il y a des éléments qui font penser, ça n'a rien à voir, mais à l'année dernière, quand j'ai chroniqué High School, où j'avais dit aussi que c'était un jeu,
finalement
classique de Pichenet, mais en fait technique, avec, c'est pareil, dans le manuel, il y avait du coup, ils expliquaient les techniques pour faire des virages à gauche, pour faire des sauts, tout ça. Donc il y a un petit parallèle, on n'est pas du tout sur le même genre de jeu. On est sur un jeu qui amène de la nouveauté sur sa technique, en fait.
C'est ça. Et puis aussi, l'originalité, enfin, c'est une certaine originalité dans le matériel et dans cet aspect empilement d'échelles, avec des formes d'échelles qui sont très différentes. Je trouve que le pari d'édition est très réussi de la part de Bombix, parce qu'on a du très joli matos dans une boîte qui, pour le coup, est pas pleine de vide. Hein. C'est une taille de boîte, c'est une boîte carrée, mais on va dire moyenne. C'est pas une grosse boîte carrée. C'est assez fin, c'est un prix relativement contenu, puisqu'on est à 22,50€ chez Philibert, chez notre partenaire. Donc pour le matos qu'il y a dedans, et puis pour vraiment le... Ouais, c'est du beau matos, une belle boîte, un beau thermoformage, comme je le disais tout à l'heure, légèrement avec une feutrine dessus, là, légèrement feutrée. Moi je suis assez fan, et je joue beaucoup à ça au bureau en ce moment parce que c'est jusqu'à 5 joueurs, ça se sort facilement, on peut vite fait enchaîner les parties. Alors c'est marrant là, j'avais pas fait le rapprochement forcément avec les auteurs des Poilus, puisque en faisant la préparation j'ai vu qu'ils avaient fait les Poilus aussi. Et en fait l'origine du jeu, c'est que les deux auteurs voulaient travailler sur un peu la verticalité, sur le fait de monter, puisque effectivement le jeu de société c'est quelque chose qui est assez horizontal finalement, on joue des cartes, on joue des machins, c'est relativement étalé et horizontal sur une table, et donc ils voulaient chercher quelque chose qui se joue plutôt à la verticale, d'où cette idée d'empilement qui a pas tout de suite été avec des échelles je crois, mais c'est assez vite arrivé cette idée d'échelle. Qu'ils ont présenté à Bombix du coup, et ça a mis un peu de temps à être édité parce que je pense qu'il y avait un vrai défi sur comment fabriquer, comment éditer, et je pense comme je le disais, le pari est réussi parce qu'on a quelque chose de, on a une boîte qui est à un prix raisonnable avec du beau matos et un jeu qui est vraiment, vraiment agréable à jouer.
Alors rassure-moi, t'as pas besoin de les dépuncher les échelles.
Non, elles sont déjà dépunchées, elles sont dans un petit ziploc tout ensemble.
Ça ressemble en fait, ça ressemble à du bois découpé au laser. En fait, ça ressemble un peu à ce que vous pouvez acheter chez les Broken Token, les machins comme ça.
C'est ce genre de
trucs découpés au laser. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même matière, non ?
Enfin, non, voilà, ça a l'air d'être
un peu
c'est
troué. Alors peut-être que c'est parce que c'est troué, donc ça fait plus léger, je sais pas.
Ouais, mais ça a l'air d'être une sorte d'aggloméré quand même. On voit des petites particules en fait. Donc c'est pas du bois brut quoi.
Non. Moi j'avais fait donc une partie, juste pour faire un petit retour rapide personnel, j'avais fait une partie à PEL, j'avais trouvé ça plutôt sympa, en tout cas je m'étais bien amusé sur la partie. Effectivement c'est original, surtout si vous n'avez pas de jeu de ce type là, adresse, empilement, je pense que c'est plutôt pas mal. Et effectivement pour 22,50€,
ouais,
c'est assez rare pour des jeux de ce type en fait, hein. des prix aussi petits.
Avec du matos comme ça qui est conséquent.
Bah, qui est conséquent, mais du coup, effectivement, finalement, il n'y a pas tant de matière que ça. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à avoir un prix suffisamment contenu. Parce qu'au final, tu vois, en termes de matière, t'en as pas tant que ça, quoi. Mm. Et puis, cet aggloméré-là, je pense que c'est pas non plus du bois massif.
Non, c'est clair.
Ça coûte moins cher aussi, quoi, comparé à d'autres jeux où tu peux avoir de l'empilement avec des cubes du coup de bois massif, là forcément je pense qu'ils arrivent à avoir un tarif un peu plus raisonnable.
Ouais, mais cela malgré la variété dans les formes d'échelle quoi. Il y a quand même une variété dans les formes.
Oui.
Ce que j'ai oublié de dire, c'est quand on va piocher une échelle pour la placer, on la choisit pas. On la pioche dans la boîte en fait, et on choisit pas sa forme d'échelle. Donc après, il faut faire avec quoi. On peut pas dire ah bah celle-là elle sera mieux parce que je vais pouvoir la mettre là, etc. C'est censé être un peu au hasard quoi.
Ouais, là il faut être un peu honnête et pas regarder trop dans la boîte quoi.
Ouais. Bon, après, c'est pas très grave.
Enfin, elles se ressemblent quand même beaucoup. Enfin, de mémoire, je me rappelais que ça se ressemblait quand même pas mal. Du coup, t'arrives pas vraiment à voir. T'aurais envie de choisir ton échelle, je suis pas sûr que t'y arriverais vraiment quoi.
Bah, en fait, il y en a qui sont plus droites que d'autres. Il y en a qui sont vraiment fines d'un côté et larges de l'autre. Donc celles-là, elles sont pratiques pour faire des points de bascule en fait. Tu vas, si, le côté fin, tu vas l'insérer entre deux barreaux. Et en fait, quand tu vas lâcher, ça va tomber et ça va se coincer. Il y a ce genre de petits trucs, de petites subtilités, quoi. Après, non, effectivement, ça change pas énormément de choses.
Voilà. Et bah, du coup, tu avais refait la fiche Finality.
Non, je vais la refaire tout de suite. Donc, le jeu s'appelle Décrocher la Lune. C'est un jeu de Fabien Riffaut et de Juan Rodriguez, illustré par Emmanuel Malin, édité par Bombix. C'est un jeu pour 2 à 5 personnes. Et moi, j'y ai déjà joué à 6 ou 7. Hein.
Non,
non, c'est 2 à 5 sur la boîte.
Ah ouais, c'est marqué 2 à 6 chez Philibert.
Ah, 2 à 6, c'est moi qui ai dit une bêtise. C'est 2 à 6. Et honnêtement, j'ai déjà joué à 7. Après, c'est juste que l'attente est un peu plus longue. Et puis, au niveau de la quantité de l'arme de lune, ça peut aller assez vite. Mais en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de restriction de nombre de joueurs. C'est plus sur l'équilibre attente et puis l'arme de lune. Mais on peut très bien jouer comme ça un petit peu plus. Hein. Mais bon, annoncé pour 2 à 6 joueurs.
Bah, j'imagine même que finalement, si tu avais 2 boîtes, tu pourrais jouer à plus. Quoi, parce que c'est un problème de nombre d'échelle finalement.
Oui, c'est ça. Et puis après, quand même, stabilité de la structure. Je pense que si t'empiles vraiment beaucoup, quoique, à mon avis, ça peut être testé. Hein. On pourrait jouer à plus avec 2 boîtes. Donc, de 2 à 6 joueurs pour des parties d'une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Et c'est annoncé à partir de 6 ans. Donc, par contre, j'ai déjà joué avec des petits. Ça peut être un peu frustrant parce que c'est quand même. Il y a quand même un peu de technicité et ça peut être difficile pour des vraiment 6-7 ans, je pense. Il faut vraiment qu'ils comprennent un peu aussi. Il y a une notion de gravité, de physique légère, savoir comment ça tient. Voilà, tout ce qui est bascule, tout ça, ils ont du mal à imaginer que ça va tenir, quoi. Ils ont tendance à vraiment poser. Donc il y a quand même cette petite notion qui peut. Mais sinon, c'est annoncé à partir de 6 ans.
Oui, c'est ce que je me disais, que 6 ans ça me paraissait quand même un peu court, en tout cas si tu joues avec des adultes. Après, peut-être que des enfants ça passerait peut-être mieux, effectivement. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette explication de Décrocher la Lune. Voilà, donc on en a fini pour cette chronique jeu de mois. On vous retrouve le mois prochain et en attendant, jouez bien.